Je me suis souvent interrogé pour savoir quel sens attribuer à la parole apparemment profonde de notre collègue Charcot. Les catégories n'empêchent pas d'exister. S'agit-il de montrer la distance qui sépare nos pauvres classements des réalités de la folie? Ou de suggérer qu'aucune des formes que la clinique permet d'observer n'est au fond si grave, puisque la vie elle-même des fous n'est jamais sérieusement menacée? Au premier cas M, Charcot nous dispense un conseil de prudence fort utile à qui veut soigner ses malheureux. Au second, il nous indique que la folie n'est pas la mort. Je me garderai bien de le suivre sur ce terrain. L'hystérie qu'il a mise en évidence est d'ailleurs effectivement moins près de la mort que la démence paralytique dont je veux vous entretenir. Étonnant début, pensa Pierre, surpris par la brutalité de l'attaque et le ton métaphysique du propos. La suite souleva quelques murmures. N'attendez pas de moi qu'en décrivant les origines vénériennes de la paralysie générale, je m'attarde à montrer que le mal vient de l'immoralité, ou pis, qu'il en est la juste sanction. Le mal ne vient pas, ne vient jamais de l'inobservation des règles de la morale. Il vient du hasard, que celui-ci soit héréditaire ou non, et aussi parfois de la pauvreté. Je vous entretiendrai d'abord des réalités de l'expérience et non pas de vos préjugés ou des miens. Revoilà ce cher vieux hasard, sourit Augustin Pierre. Alcossé et moi, Alcossé et l'humanité et moi avons le hasard en commun. Voyons la suite. Alcossé décrit les premiers symptômes, la fatigue de l'attention, les troubles de la mémoire, l'insouciance, la perte du sens moral. Il cite de nombreux cas, commente les attitudes. Parfois il trébuche sur un mot. Sagua la Grande, les processions pour fêter les saints d'Espagne, les enfants de cœur en rouge et blanc pieds nus dans la poussière, et le vieil ostensoir du couvent des Jésuites levé vers le ciel. Après une heure, au moment d'en venir au discours délirant, Alcossé s'interrompt et reste immobile, fatigué, presque abattu. L'assistance, captivée par la force et la clarté de l'orateur, attend avec respect qu'il se reprenne. Pierre ne l'a jamais vu si net ni si puissant. Interné, le malade annonce lui-même aux visiteurs, avec indifférence, « Je suis dans une maison de fous », ou avec satisfaction, « Je suis dans une jolie maison où l'on mange très bien ». Alcossé donne à voir la folie dans son domaine de briques et l'assistance découvre l'angoisse. Le délire le plus fréquent est le délire hypochondriaque. Le malade affirme qu'il n'a plus de cerveau, que son corps est en putréfaction. Il peut sombrer dans une sorte de stupeur mélancolique qui fait craindre le suicide. Ce délire alterne avec le délire des grandeurs. Pourquoi ce bredouillement, cet air accablé? Pierre se sent pris d'un malaise indéfinissable. Quelques internes ont cessé d'écrire et s'entretiennent à voix basse. Le perpétuel, tourné de côté, observe l'orateur. Vous rencontrerez, mes chers collègues, des malades qui prétendront avoir 350 mètres de haut, tel affirmera être âgé de 1000 ans, tel autre qu'il a créé le ciel et la terre, tel autre enfin s'écriera « Je suis tout, j'ai des milliers d'enfants ». L'une des déclarations les plus caractéristiques est celle par laquelle le malade indique que telle ou telle partie de son corps est faite d'une matière précieuse, l'or en général. Le malade peut aller jusqu'à affirmer que ses testicules sont en or. Une onde d'amusement, d'inquiétude, de consternation et peut-être de pitié parcourut le public. Le silence revint. On s'attendait à ce que le professeur continuât, mais il restait là, légèrement courbé sur son pupitre, et ceux des premiers rangs étaient frappés de ses yeux larmoyants, de ce curieux regard qu'on eût dit perdu dans la contemplation d'une plante, d'un insecte exotique, vraiment extraordinaire. Il semblait parler à voix basse. Puis d'un coup, il se redressa et reprit d'une voix étrange, comme étouffée, où passait un reste de l'accent qu'il avait perdu, « Vous ne croirez pas, messieurs, ceux qui vous affirmeront qu'ils ont les couilles en or. » Le président et les membres du bureau se regardèrent interloqués. Seuls les sourds restaient indifférents. Comme ils étaient nombreux, la salle paraissait s'animer par plaques, d'autres plaques ne bougeant pas. Alcossé avait l'air concentré et pourtant il paraissait si loin. Augustin s'habituait à la vérité. « Ce sont des menteurs, il est clair que personne ne peut se vanter d'avoir les couilles en or. Ce privilège est réservé au petit nombre, non pas que. Que je veuille en rester le seul détenteur, j'aimerais au contraire que tous vous puissiez posséder d'aussi beaux organes. Oui, messieurs, je... » Le président se leva brusquement. Alcossé agrippé au pupitre blanc, balbutiait des mots sans suite. Il ouvrit sa jaquette et porta les mains à la ceinture de son pantalon comme pour le dégrafer. Un murmure dramatique s'éleva. « Au fou !» cria un homme au parterre. Augustin Pierre et deux internes gagnèrent l'estrade et emportèrent le professeur. Dès qu'ils furent sortis, le silence se fit à nouveau un silence inhabituel, stupide. L'événement passait la mesure, les conversations reprirent dans l'escalier et dans la rue. Les amis, les maîtres, les élèves d'Alcossé s'assemblaient par petits groupes. Les plus hardis déclaraient s'expliquer mieux telle ou telle de ces réactions passées. Il y eut des insultes. Pendant ce temps, le flot mondain s'écoulait au dehors, dans un bruit de paroles et de soie. Un interne fendit la foule en fredonnant. « il est en or, on disait qu'il prend son essor, c'est pas du toc, ni du melchior comme la canne du tambour major. Il est en or. » Pauvre éloquence, dit un homme qui passait, et ce fut tout. Huit Romains Augustin Pierre décida d'acheter Bussy. Il prit cette décision comme il prenait toutes les autres, par instinct, par raison, sans trop y penser pourtant. Après les événements des dernières semaines, il avait envie de s'échapper, d'être ailleurs. Et il aimait bien le vieux National, qu'il regardait comme une gravure du temps passé. Il avait dit à son père, « Ce sera pour mes vieux jours ». Alors Charles-Pierre avait eu ces propos souriants qui ne pouvaient qu'aviver les désirs de son fils, « Dépêche-toi donc d'y arriver ». La vieillesse, c'est les grandes vacances. On a fait son devoir et payé tous les tributs que la société vous impose. Le travail et les chagrins sont derrière, on est enfin libre.